Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Olivier Roux.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grande invitée au féminin, puisqu'avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Fatoumata Ba. Bonjour Madame Ba.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour Julien.
Fatoumata Ba, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes aujourd'hui à la tête de Django et votre objectif est de faire émerger de nouvelles jeunes pousses des start-up africaines et de les financer.
Vous avez lancé cette structure il y a 3 ans. Auparavant, vous avez participé à la création de l'entreprise dont il a été souvent question dans cette émission. Elle s'appelle Jumia et vous en avez dirigé les filiales en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Qu'est-ce qui vous a incité à devenir créatrice d'entreprise ?
Écoutez, lors de mon aventure entrepreneuriale tout à fait exaltante, j'ai réalisé que mon rôle en tant qu'acteur du secteur privé, en tant que jeune et aussi en tant que femme, était d'apporter des réponses concrètes. À l'époque, je faisais du conseil dans un cabinet à Paris qui aidait des sociétés cotées à utiliser la technologie et je trouvais ça très très loin des sujets au cœur du développement du continent africain. Et donc ce qui était important pour moi d'abord, c'était de créer de l'emploi, donc d'avoir un impact sur ce sujet qui m'est très très cher. Ce qui était très important aussi, c'est de qui existe, mais qui existe de manière disparate, fragmentée, de manière des fois un peu trop chère, à une classe moyenne qui existe elle aussi et qui a besoin des mêmes produits que leurs équivalents en Inde, en Chine et en Europe. Donc c'était ça le pari de départ et ça a donné effectivement une place de marché en ligne qui opère aujourd'hui dans plus d'une dizaine de pays.
Alors au cours de cette émission, Fatoumata Ba, nous allons vous interroger encore sur votre parcours. On va vous demander quelques explications supplémentaires, quelques détails. Nous allons vous interroger sur les réalisations de Django, auxquelles vous venez de faire brièvement allusion, sur votre participation à l'essor des économies africaines, auxquelles aussi vous venez de faire allusion, et plus généralement sur votre perception de la situation économique du continent en cette difficile période de pandémie du Covid.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Une première question, une deuxième, devrais-je dire, de Julien Clémenceau pour vous, Fatoumata Ba.
Vous êtes d'origine sénégalaise, vous vivez beaucoup à Paris et vous avez créé votre entreprise Django, en tout cas elle est implantée à Abidjan. Est-ce qu'actuellement la situation politique qui est tendue en Côte d'Ivoire vous inquiète ?
Écoutez, c'est assez classique lorsqu'il y a une élection qui se profile d'avoir davantage de vigilance, que ce soit des acteurs économiques, parce que nous y avons des investissements, mais aussi dans le cadre de la population locale. Ceci étant, moi j'ai quand même vécu plusieurs élections ces dernières années en tant qu'opérateur économique et je me rappelle de la plus récente, de l'élection au Nigeria, où on présageait aussi des débordements, où on présageait aussi une instabilité et finalement il y a eu un vote qui a été pris en compte, accepté par l'adversaire et finalement une situation économique qui n'a pas été bouleversée. Donc j'escompte la même chose de la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même si j'observe attentivement tous les récents développements.
Mais la situation est quand même différente, on se souvient qu'en 2010-2011, il y a eu une crise post-électorale très grave, avec environ 3000 morts, et on retrouve à cette élection deux des principaux prétendants, M. Bédier et M. Ouattara, qui se font face, et avec des positions très tranchées, et un appel au boycott actuellement.
Alors tout à fait, je pense que la mémoire des conséquences de cette élection est dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Personne n'a envie de revivre une situation d'instabilité, une situation de perte de PIB, une situation de perte de vies humaines surtout. Et je pense que les responsables politiques, et je l'espère du moins, sauront prendre leurs responsabilités pour préserver cette renaissance économique de la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui un poumon essentiel en Afrique, mais surtout en Afrique de l'Ouest, que ce soit en termes de création d'emplois, que ce soit en termes d'exportation et nous avons tous besoin d'une Côte d'Ivoire qui a un processus électoral fiable et qui permette l'élection d'un président sans qu'il n'y ait aucun heurt.
Fatoumata Ba, on reproche souvent aux non-africains, aux Européens, aux Occidentaux d'avoir une vision extrêmement pessimiste de l'Afrique, de voir surtout les coups d'État, les troubles politiques qui ne manquent pas, certes, mais de passer à côté de toute une autre réalité du continent, du développement, de la croissance, de l'inventivité, de tas de choses qui se font. Est-ce que c'est votre vision à vous qui avez les pieds sur le continent africain, mais aussi beaucoup en Europe? Est-ce que vous Est-ce qu'il y a une vision différente qu'on devrait avoir en Europe, en particulier, et en France, par exemple, de ce qui se passe sur le continent africain?
Absolument. Je pense qu'il ne faut pas tomber ni dans l'optimisme béat, ni dans des poncifs en ce qui concerne voilà, des sujets qui font la une facilement de certains médias européens. Moi, j'étais très souvent atterrée d'être interrogée par des journalistes économiques, par exemple en Allemagne, avec une vision très, très étriquée, qui vont toujours parler uniquement d'aide au développement et pas d'opportunités d'investissement, qui vont encore parler voilà, de gestion de pandémie et souvent d'Ebola, alors qu'en l'occurrence, sur la pandémie du coronavirus, le continent africain ne s'en sort pas si mal finalement, et qui vont aussi avoir du coup un effet qui est assez pervers, je pense, sur la perception réelle du risque, et notamment du risque économique sur le continent. Et je pense qu'avant la pandémie, on rappelait insuffisamment que dans le top 10 des pays dans le monde qui ont la plus forte croissance, 7 sont africains, et l'été, les 5 à 10 dernières années. Et donc ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir en témoigner, de témoigner de cette vitalité-là. Et je pense que c'est aussi un des débats qu'on peut avoir lorsqu'on a, par exemple, des agences de notation étrangères qui vont noter peut-être faiblement, en tout cas apprécier le risque sur le continent africain de manière
surévaluée. Vous pensez qu'il y a un biais là ?
Il peut y avoir un biais et c'est vrai qu'il y a des signes qui sont des signes d'optimisme. Quand on voit par exemple que la ville de Dakar ou même la ville d'Abidjan, lorsqu'ils ont fait des émissions de bonds municipaux, on voit que finalement, les durées s'allongent et les taux baissent. Donc il y a aussi des signes. Hein, absolument, il y a des signes pratiques. Ça, c'est un signe pratique, pragmatique et objectif de la perception du risque des investisseurs. Et je pense qu'il faut passer beaucoup plus de temps sur ces sujets.
Des possibilités d'investissement, vous en offrez avec Django. Au mois de janvier, vous avez annoncé une levée de fonds de 60 millions d'euros. Est-ce que vous avez réussi cette levée de fonds et qui vous a fait confiance?
Alors, nous avons annoncé l'intention de déployer donc le lancement d'un fonds d'investissement de 60 millions d'euros pour financer une trentaine de jeunes pousses technologiques d'ici 5 à 10 ans. Pour nous accompagner, donc comme vous le savez, les fonds d'investissement, ça se lève en plusieurs tours, donc on appelle ça un closing. Donc nous maintenons le cap pour un premier closing cette année et nous avons été déjà accompagnés par la Banque européenne d'investissement avec un financement de 15 millions d'euros qui croit d'abord au potentiel économique de l'Afrique, hein, parce que c'est un financier classique. Hein. C'est, je pense qu'ils ont 600 milliards d'euros
Je crois qu'il faut reprendre les choses au début pour qu'on explique bien. Donc, vous avez décidé il y a quelques années, 3 ans, de créer une structure financière, c'est ça?
Alors, effectivement, j'étais entrepreneur auparavant. Il y a 2 ans, j'ai décidé d'investir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la technologie pour massifier ou en tout cas accélérer le développement, c'est une chose à laquelle je crois et qu'on voit de plus en plus sur le continent avec des start-up qui ont un impact en création d'emplois, qui ont un impact en accès aux services et biens essentiels, qui ont un impact pour les PME. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant parce qu'en fait, on a un déficit de financement du secteur privé sur le continent et ce déficit, il est encore plus important, très très en amont de la chaîne de valeur, donc pour les jeunes pousses et pour les PME. Et donc, c'était important pour moi d'utiliser mon savoir-faire, ma crédibilité, pour apporter du capital en disant mais écoutez, finalement, si on apporte du capital, ça s'appelle le capital risque, ça permet de démarrer plus d'entreprises, notamment d'entreprises technologiques, ça permet du coup de créer des emplois, ça permet grâce à ces plateformes d'accélérer l'accès à ces services essentiels et ça permet du coup aussi de générer des retours financiers, économiques qui sont intéressants pour qu'un investisseur privé continue à déployer du capital à plus long terme. Et historiquement, sur le continent africain, dans le financement des jeunes pousses, donc dans le capital risque, ce sont surtout des financiers du développement qui prennent le risque ou qui font ce pari parce qu'ils voient typiquement qu'en créant des entreprises, on crée de l'emploi, on améliore la qualité de vie des ménages.
Ce que vous appelez les financiers du développement, c'est quoi?
C'est les multilatérales.
Les institutions multilatérales.
Les institutions multilatérales, tout à fait. En revanche, ce n'est pas suffisant. Il faut arriver à ce que leur financement ait un rôle catalytique sur le secteur privé. Ce qu'il faudrait voir, si vous regardez par exemple aux États-Unis, l'industrie technologique est financée par la Silicon Valley Bank, par des fonds privés, par des entrepreneurs qui ont réussi. Si vous regardez la France, la BPI, la Banque publique d'investissement, a eu un rôle très catalytique dans le financement de l'écosystème de start-up. Si vous regardez le continent africain, vous avez très très peu, voire pas du tout, de capitaux privés.
C'est-à-dire que ces institutions multilatérales, elles ont un rôle de levier. C'est-à-dire, elles investissent un et on attend qu'il y ait 10 du secteur privé.
Tout à fait. C'est pour ça que c'est important, cette logique de capital et surtout de fonds d'investissement. C'est que pour chaque euro investi, par exemple, par la Banque européenne d'investissement, vous avez un investissement d'un acteur du secteur privé, vous avez des investissements de d'autres institutionnels qui font le pari que cet investissement, à un horizon d'une dizaine d'années typiquement sur les fonds de capital risque traditionnels, va générer d'abord des rendements économiques importants pour pouvoir effectivement rémunérer cet investissement de manière correcte, mais surtout va avoir un effet positif sur la société en termes souvent de création d'emplois. Nous, par exemple, on s'intéresse énormément au business model et au secteur d'activité qui sont pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes, qui sont pourvoyeurs d'emplois pour les femmes. Et ça, pour le coup, c'est une thèse d'investissement qui est très prometteuse sur le continent.
Fatouma Taba, expliquez-nous ce que vous avez fait depuis l'annonce du lancement de votre fonds en janvier. Dans quelles entreprises vous avez investi et comment ça s'est passé au cours de cette période marquée par le Covid, bien évidemment?
Alors, nous avons réinvesti dans 3 entreprises, dans 3 places de marché en ligne qui opèrent sur le continent africain. L'une d'entre elles aide en fait des acteurs, qu'ils soient privés, grands groupes, particuliers ou même PME, à expédier. Donc, on sait qu'en Afrique, la logistique a un coût très prohibitif. Elle n'aide pas les PME africaines à être compétitives, à la fois sur leur marché domestique, mais encore plus sur des marchés à l'export. Et donc là, on finance et on apporte du capital d'abord financier, mais aussi du capital humain, parce que pour moi, c'est pas suffisant de financer. Si vous regardez en fait dans l'univers des startups, vous en avez systématiquement 2 sur 3 qui meurent avant d'avoir 3 ans. Et les raisons en général sont, un, effectivement, un manque de capital. La deuxième, c'est une belle vision, mais une difficulté d'exécution, parce qu'il faut y arriver, hein, aller chercher ses clients, aller chercher ses partenaires. Et la troisième, c'est de ne pas avoir trouvé, on va dire, sa preuve de concept, c'est-à-dire il n'y a aucun problème qui est résolu par la solution qui est proposée ou aucun besoin. Et c'est justement sur ces dimensions-là que le rôle d'un entrepreneur qui devient investisseur est prépondérant. Parce que du coup, on apporte aussi du savoir-faire, de la méthodologie, de l'expérience sur les marchés. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, cette entreprise bénéficie d'un essor malgré la situation.
Comment
sanitaire.
S'appelle-t-elle?
Elle s'appelle Jexport.
Jexport. Et vous avez injecté combien? Quel montant?
Alors, nous ne communiquons pas sur le montant parce que c'est important de respecter les communications qui sont faites par les entrepreneurs eux-mêmes. Mais effectivement, sur ces deux dernières années...
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée?
Oui, effectivement, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été investis dans cette entreprise avec une croissance forte du chiffre d'affaires, avec une expansion des marchés et des corridors et surtout avec, pour moi, ce qui est important, un impact social sur la compétitivité des prix. Je vais vous donner un exemple probant. En Côte d'Ivoire, on a réuni un groupe de PME lorsqu'on voulait faire cet investissement pour un peu comprendre à quel point cette question des coûts logistiques était essentielle ou pas. Donc, ça a été avec, d'ailleurs, le ministre de l'industrie de la promotion des PME, ils ont identifié des PME prêtes à l'export, mais qui ne franchissaient pas le pas. Donc 55% d'entre elles, elles ont indiqué que leur coût logistique représentait 55% de leur coût de marchandises.
Fatouma Taba, en vous écoutant, vous êtes en train de créer des routes numériques pour les biens et les marchandises sur les marchés que vous ciblez. Mais comment faire circuler les biens et les marchandises quand les routes sont en mauvais état, quand il n'y a pas d'infrastructure de circulation, quand l'électricité manque, quand il y a des obstacles douaniers malgré l'élan vers le marché unique, etc. Comment est-ce que vous pouvez concilier les deux? Parce que vous créez des routes virtuelles, mais les routes réelles, elles empêchent en fait la circulation des biens que vous voulez faire circuler.
Vous avez raison. Lorsque vous dites qu'il y a des déficits d'infrastructures qui empêchent l'essor du commerce transfrontalier en Afrique, c'est une évidence. Lorsque vous dites qu'il y a des initiatives qui sont très importantes, comme la zone de libre-échange intercontinentale, mais qui sont pas encore suivies, en tout cas qui sont pas encore implémentées, ça va l'être, hein, ça devait l'être cet été, ça va l'être en début d'année prochaine, vous avez raison. En revanche, l'intérêt du digital, c'est que vous pouvez en fait permettre un accès au marché qui est facilité. Je vous donne un exemple concret. Si aujourd'hui vous voulez exporter d'un pays africain à un autre pays, que ce soit un pays européen, en pays asiatique, en général, vous avez plusieurs intermédiaires, des intermédiaires qui n'ont pas forcément une valeur dans la prestation, mais qui vont prendre une commission. Vous avez un temps qui est plus long, vous avez de l'opacité sur les prix, donc c'est très compliqué de savoir comment expédier au juste prix et donc faire baisser ses coûts, d'une part. D'autre part, vous avez souvent des corridors déséquilibrés. Par exemple, vous avez des produits qui vont de la Côte d'Ivoire vers le Mali ou vers le Burkina, 6 fois plus que vous en avez dans l'autre sens, parce que effectivement, ces pays sont enclavés et que la Côte d'Ivoire leur sert de port. Lorsque vous pouvez utiliser une plateforme numérique, vous pouvez optimiser par exemple le remplissage, et si vous optimisez le remplissage, la logistique c'est arithmétique, vous faites baisser le prix.
Ce que vous évoquez, Fatouma Taba, je m'excuse de vous interrompre, c'est du commerce international en gros. Vous ne semblez pas viser le développement du marché intérieur, c'est-à-dire quelque chose produit en Côte d'Ivoire ou au Mali, vendu au Burkina Faso ou au Zimbabwe.
Vous avez raison, il y a un enjeu très très fort d'amélioration des marchés domestiques, il y a des sujets typiquement qui sont importants dans la logistique, dans la chaîne de valeur, qui sont entre le lieu de production et le marché avant même de penser à l'export. Pourquoi l'export est un sujet important et l'est toujours? C'est que ça a un impact sur les devises, la balance commerciale. Et vous le savez, le continent africain aujourd'hui représente moins de 3% des échanges mondiaux. Ce n'est pas normal. On représente le continent avec le plus de ressources, mais on ne transforme pas assez, on n'exporte pas assez. Donc je ne vais pas dire qu'il ne faut pas répondre aussi aux problématiques de marché intérieur, c'est une évidence. Mais là où on voit le plus gros déficit, c'est quand même sur l'export. Et même la Côte d'Ivoire, ils sont leaders dans l'exportation de cacao, effectivement, de café, de caoutchouc de plus en plus, mais il y a tellement d'autres filières qui pourraient être développées. Et une chose qui nous a motivés à faire cet investissement, c'est qu'un ancien économiste de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire nous disait « La Côte d'Ivoire pourrait être le grenier à fruits et jus de fruits du monde entier. » Mais ils ne le sont pas pour des questions de déficit structurel et de manque de compétitivité des chaînes de valeur à l'export, hormis bien entendu les filières qui sont déjà structurées et régulées par le gouvernement. Et ça, c'est le rôle du secteur privé, quelquefois, de compléter ces différences, qui soient ponctuelles ou structurelles, pour pouvoir trouver des solutions pour pouvoir opérer, quoi, tout simplement.
Fatouma Taba, vous parliez de la difficulté à trouver des investisseurs privés. Vous êtes soutenu par un membre de la famille Muliez, qui est propriétaire donc de la chaîne de distribution Auchan, des magasins de sport Décathlon. Qu'est-ce qui les intéresse dans votre projet?
Alors, effectivement, lorsque nous avons levé des fonds il y a 2 ans, nous avons été soutenus par... alors, c'est pas un membre, c'est par l'association familiale Mullier. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a une conscience claire que l'Afrique est justement un continent d'avenir et un continent d'opportunités économiques. Deuxième chose, c'est la conscience claire qu'il y a une classe moyenne qui souhaite acheter des biens de consommation. Et ces biens de consommation, ils sont à la fois alimentaires et non alimentaires. Et puis il y a une troisième chose, je pense qu'il y a une fibre entrepreneuriale, c'est une histoire, c'est une entreprise, et moi c'est ce qui m'a beaucoup attiré. Je suis quelqu'un très à cheval sur les valeurs, qui a d'abord connu une aventure entrepreneuriale de Gérard Mullier sur la filière textile industrielle, puis dans notre Gérard Mullier fondateur d'Auchan, et ce sont des choses qui inspirent forcément et qui permettent du coup d'avoir une vision qui ne soit pas que sur le plan économique, qui soit aussi sur la manière d'entreprendre.
Fatouma Taba, vous êtes la grande invitée de l'économie sur RFI dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Avec Julien Clémenceau, nous vous interrogeons sur votre parcours, sur votre vision de l'Afrique. L'entrepreneuriat est souvent décrit comme la solution miracle pour développer les économies africaines. On va en parler plus longuement, mais je voudrais d'abord vous faire écouter un reportage qui nous vient d'Afrique du Sud, qui est signé Claire Bargelès et qui relate l'impact de l'épidémie de Covid sur les travailleurs informels sud-africains.
Une dizaine d'hommes en bleu de travail sont assis sur une butte au pied d'un feu rouge dans ce quartier résidentiel de Johannesburg. C'est ici que s'arrêtent parfois des voitures pour leur offrir des petits boulots de jardinage, de bricolage ou encore de maçonnerie. Mais Isaac, 52 ans, n'a plus été sollicité depuis 2 semaines.
Je suis prêt à faire n'importe quel travail, ça me va, je peux faire peintre ou jardinier, mais c'est vraiment dur maintenant. À mon âge, on me répond parfois qu'on a besoin de personnes plus jeunes. Je ne sais pas comment je vais faire pour survivre.
Chacun met ses outils en évidence pour afficher ses compétences. Wanda, originaire du Zimbabwe, a revêtu sa tenue de peintre et a apporté ses CV. Depuis le début du déconfinement, il voit de plus en plus de personnes rejoindre la butte le matin en quête d'emploi.
Il n'y a plus de travail dans les entreprises. Beaucoup ont dû licencier des gens. Moi, avant le Covid, je travaillais dans une station essence, mais elle a fermé. Donc j'essaie de faire de mon mieux maintenant et j'habite avec ma femme qui vient d'avoir un bébé de 3 mois. Donc la vie est dure et elle ne travaille pas.
Un peu plus haut dans la rue, Kiniso a lui repris la petite activité qu'il s'est créée. Sur le trottoir, sous une tente de jardin, il taille les barbes des passants, mais il a beaucoup moins de clients qu'avant la crise.
C'est toujours difficile car ce n'est pas revenu à la normale. J'ai peut-être retrouvé 50% de mon activité. La plupart de mes clients étaient des étudiants de l'université, donc ils ne sont pas revenus. Et beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Alors les gens n'ont plus d'argent. J'espère que cela va bientôt s'arranger.
La crise économique qui a découlé de la pandémie a donc montré la vulnérabilité de ces travailleurs informels. Mais leurs situations sont très diverses, notamment en fonction de leur nationalité, comme l'observe Shaima Assabo. Cette chercheuse associée à l'université de Johannesburg conduit une étude sur l'impact de la crise sanitaire sur le parcours de vie de ces travailleurs.
Il y a une catégorie de Sud-Africains qui ont pu avoir les 350 francs d'aide gouvernementale, pas régulièrement. Et il y a les catégories de migrants qui, eux, n'ont pas reçu quoi que ce soit. On voit aussi une disparité dans ce secteur informel entre Sud-Africains et non-Sud-Africains.
Le programme des Nations Unies pour le développement estime que le pays pourrait mettre 5 ans à se relever d'une telle crise économique.
Un constat catastrophique. Ces travailleurs informels sud-africains, ils pourraient être ivoiriens, burkinabés, éthiopiens, j'en passe. Le salut de ces gens-là, à vos yeux, Fatouma Taba, ce sont les entrepreneurs, c'est vous ?
Écoutez, ce serait peut-être péremptoire, mais en tout cas, c'est une partie de la solution, c'est certain. Parce que ces entrepreneurs, aujourd'hui, vous l'avez entendu dans le reportage, ils se tournent d'abord vers l'État. Les États africains se sont mobilisés, ont essayé de se mobiliser dans cette réponse au Covid, mais on constate quand on regarde ce qui se passe sur le plan mondial, que c'est à hauteur de leur capacité ou des capacités qu'on veut bien leur donner. Un pays comme le mien, le Sénégal par exemple, a un plan de près de 1,6 milliard, mais finalement c'est 4% du PIB. Quand par exemple la France, même avant l'intervention de l'Europe, avait un plan qui était plutôt de l'ordre de 20% du PIB. Et c'est paradoxal, parce que nous sommes dans des... En France, il y a une sécurité sociale. Il y a des filets de sécurité pour les travailleurs lorsqu'il y a une pandémie. Oui, mais comme vous l'avez indiqué dans votre reportage, nous avons 80% d'emplois au moins qui sont informels. Donc ce filet de sécurité, il existe pour des gens qui sont soit fonctionnaires dans le secteur public, soit qui sont dans le secteur privé traditionnel, et ça consiste en une minorité de personnes. Donc d'abord, la capacité d'intervention de l'État, des États est forcément limitée, et c'est là où il y a le plus de besoins qu'il y a le moins de ressources. Et ensuite, effectivement, ces travailleurs, comme ils sont très exposés, ils n'ont pas la capacité de gagner. Au Sénégal, on appelle ça la dépense quotidienne. Et donc forcément, on vit des situations dramatiques. Et vous entendez souvent la même chose, que ce soit sur le continent africain, mais c'est la même chose en Inde. Des gens vous disent que moi j'ai davantage peur de mourir de faim que de mourir du coronavirus. Et ce qu'il faut, et pour moi, pourquoi il faut une réponse importante du secteur privé dans ces cas-là, et qui existe d'ailleurs, il faut une réponse à la fois d'urgence et une réponse plus à long terme. Des exemples de réponses d'urgence, c'est par exemple, si vous regardez le Nigeria, il y a une coalition contre le Covid, K-Covid, qui s'est lancée, c'est une initiative du secteur privé. Elle a injecté des dizaines de millions de dollars, d'abord aide sanitaire, en matériel sanitaire, en hôpitaux de fortune, mais aussi en aide alimentaire. Si vous regardez par exemple l'Union africaine, il y a aussi un fonds de lutte contre le Covid, mais il est abondé essentiellement par des entreprises. Et plus récemment, effectivement, lorsque l'Union africaine et le président Ramaphosa ont commencé à définir des sujets clés d'intervention pour mobiliser le secteur privé, ils se sont d'abord intéressés aux sujets financiers et à la dette, ce qui est très important, avec des envoyés spéciaux de très grande qualité, mais ils se sont aussi intéressés aux questions d'accès aux médicaments, d'accès aux kits de test, d'accès aux respirateurs artificiels. Et là, en l'occurrence, ce sont des acteurs du secteur privé qui sont allés chercher. Donc, ils ont nommé Strive Maziwa comme envoyé spécial. Et moi, j'étais très heureuse de contribuer, par exemple, à créer financer une plateforme d'achat consolidée pour les pays africains pour qu'ils puissent avoir accès au matériel médical contre le Covid.
Julien Clémenceau.
On reviendra tout à l'heure sur cette plateforme, mais Fatouma Taba, est-ce qu'il n'y a pas un peu de sabotage dans l'air quand on voit que la CNUSED vient de publier un rapport qui établit que les fuites de capitaux et la fraude fiscale est au même niveau que les investissements directs étrangers ? Et vous, l'effort que vous faites avec les entrepreneurs, quelque part, d'autres ne jouent pas le jeu et envoient leur argent à l'extérieur, travailler à l'extérieur, plutôt que d'aider les entreprises africaines à se développer.
Alors bien entendu, c'est une plaie, c'est hautement condamnable, mais je pense qu'il ne faut pas rester dans l'émotion de ces chiffres. Il faut aussi se dire qu'est-ce qui fait qu'on peut étendre l'assiette fiscale. Par exemple, on étend l'assiette fiscale quand il y a plus d'entreprises qui paient leurs impôts. Et comment on fait pour qu'il y ait plus d'entreprises qui paient leurs impôts ? Il y a plus de capital qui permet de les financer à plus ou moins long terme pour pouvoir rendre leurs services aux entreprises et aux particuliers, et ensuite rémunérer leurs investissements. investisseurs. Et donc plutôt que, effectivement, c'est un chiffre qui est édifiant, il y en a d'autres qui sont complètement paradoxaux. C'est se dire que, par exemple, l'aide au développement est inférieure à l'envoi de la diaspora vers l'Afrique. C'est aussi des chiffres qui font réfléchir. Et c'est le même ordre de grandeur, par exemple, que le moratoire de la dette. Je pense que tous les travaux, que ce soit avec le Club de Paris ou avec les autres acteurs chinois notamment, c'est un ordre de grandeur de 100 à 150 milliards de dollars. Voilà, c'est effectivement, ce sont des sommes qui permettent de prioriser les sujets importants. Alors oui, effectivement, il faudrait pas qu'il y ait d'évasion fiscale, mais tout pays dans le monde peut le dire. Et là, l'action, elle est dans le cadre des gouvernements. Donc moi, j'ai une capacité d'action qui est plus faible. En revanche, j'ai une capacité d'action plus directe dans la mobilisation de capitaux internationaux et africains pour investir en Afrique.
Quelle est votre vision du tissu entrepreneurial africain aujourd'hui ?
Écoutez, c'est une question intéressante parce que si vous voulez, si vous regardez le tissu économique africain, il est fait essentiellement de TPME. Hein, si vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire...
De très petites et moyennes entreprises.
Tout à fait. Non, si vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, l'État vous dit qu'il y a 98% de TPME, donc de très petites et moyennes entreprises. Et donc, on a un tissu économique qui est plus fragmenté, qui est du coup peut-être plus vulnérable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, j'indiquais que malgré leur forte volonté, l'intervention de l'État est forcément plus faible que dans des pays développés. Et en plus, même lorsqu'elle existe, l'absence de formalisation empêche ces acteurs informels de bénéficier. Hein, donc vous voyez peut-être des milliards, des gens vont voir des milliards du FMI qui arrivent, mais finalement, c'est pas l'acteur informel qui est au marché à Sandaga ou à Adjamé en Côte d'Ivoire qui va en bénéficier, parce que pour le coup, c'est très difficile pour lui de pouvoir justifier son existence. Des fois, il n'en a pas la volonté. Et quand il le souhaite, il n'a pas accès à des financements bancaires traditionnels. Et donc, forcément, il ne peut pas bénéficier de ces coups de pouce, qu'ils soient court terme ou à plus long terme.
Julien Clémenceau.
Fatouma Taba, dans vos précédentes fonctions, vous avez lancé les activités de Jumia en Côte d'Ivoire, puis vous avez dirigé les activités de Jumia au Nigeria, sans doute la filiale la plus rentable du géant africain du e-commerce. Qu'est-ce que vous y avez appris dans ces différentes fonctions que vous avez occupées ?
Je pense que la première chose, ça a été, puisqu'en enseignant, ça a été une révélation, c'est que la technologie, c'est un levier de développement. C'est un levier, pour moi, massif de développement. C'est que lorsqu'on regarde, in fine, une aventure entrepreneuriale comme celle-ci, qui peut générer 5000 emplois directs en 8 ans, ça a l'air d'être une goutte d'eau dans l'océan, parce qu'on sait qu'on a besoin de créer 20 millions d'emplois par an sur le continent. On en crée actuellement, bon an, mal an, 3 millions. D'ailleurs, c'est paradoxal, cette année, à cause du coronavirus, on en aura perdu, d'après la Commission économique pour l'Afrique, quasiment 3 millions. Donc, on a quasiment en recul de création d'emplois. Mais j'aime comparer ça, par exemple, à la Côte d'Ivoire, où vous avez trois opérateurs téléphoniques qui sont leaders, qui existent depuis des décennies. Et si vous regardez les emplois directs qu'ils ont, pas les indirects ou les induits, c'est 2575 personnes au premier trimestre 2020, selon l'autorité de régulation locale. Donc ça, je pense que s'il fallait le prouver, la preuve est là, c'est une preuve tangible, que des entrepreneurs peuvent avoir, grâce à leur business model, une capacité sur le tissu social, sur leur pays, ou sur tous les pays dans lesquels ils interviennent. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la technologie permet de répondre à des difficultés qui sont des difficultés des fois structurelles. Tout à l'heure, on avait l'exemple de la logistique. C'est la même chose sur le marketing. Moi, quand j'allais voir les PME ivoiriennes, par exemple, qui étaient nos premiers fournisseurs de matériel électronique au marché de Trècheville, je leur disais pas, ah, c'est génial, la technologie, c'est un nouvel âge. Je leur disais, aujourd'hui, vous payez des charges fixes que vous vendez votre téléphone Samsung ou maintenant Infinix ou pas. Sur Internet, vous ne payez que quand vous vendez. Et en plus, aujourd'hui, vous êtes limité aux personnes à votre zone de chalandise, hein, comme disent les retailers traditionnels. Et là, vous pouvez vendre n'importe où en Côte d'Ivoire, que ce soit à Korogo, à Ferke, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a une réalité matérielle forte, parce que vous avez des gens aujourd'hui qui étaient cloisonnés à une zone donnée, à un lieu donné, qui ont une capacité d'accès au marché qui est essentielle. Et si vous écoutez les financiers du développement, ils vous disent toujours que les PME, elles ont besoin de trois choses, et pas qu'en Afrique. Un accès au marché, deux, un accès au capital, et trois, un renforcement des capacités pour pouvoir gérer leur boîte et utiliser l'outil technologique. Et je pense que ce genre d'enseignement est assez probant.
Fatouma Taba, est-ce que vous êtes toujours actionnaire de Jumia?
Alors, oui, tout à fait, et je suis heureuse de l'être.
Qu'est-ce que vous inspire les fluctuations du cours de bourse du groupe à New York? Il a été introduit en 2019 à 14 $, il est monté à 40, il est descendu très bas, en avril il était à moins de 3 $, il y a eu une petite poussée de fièvre à nouveau au mois d'août, aujourd'hui il est à 8 $. Qu'est-ce que ça veut dire de l'état d'esprit des investisseurs?
Vous regardez ça tous les jours?
Vous savez, la cotation en bourse, c'est comme un passage à l'âge adulte, hein, pour une start-up. étapes. Et donc, quand vous vous préparez, vous vous dites, il y a des choses qui vont être sous mon contrôle, des choses qui ne vont pas l'être. Et on parle de Jumia, mais regardez Casino, hein, qui des fois ne veut pas se coter. Regardez Shopify, qui a aussi eu les assauts de, on appelle ça un short seller, donc quelqu'un qui fait des paris à la baisse du cours. Voilà. Effectivement. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'espère, et le sens d'une cotation en bourse, c'est de se dire qu'on a une capacité de financement à long terme par un marché public. Et in fine, si on regarde les perspectives à long terme, en Afrique, on n'a même pas 3% de pénétration de l'Internet. Et donc, forcément, si vous regardez la Chine, c'est 30%. Si vous regardez le Royaume-Uni, c'est 18-20%. Donc, forcément, mécaniquement, aujourd'hui, on est 1,3 milliards. En 2050, on sera 2,2 milliards. Forcément, avec l'essor de la démographie.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs ne croient pas encore assez au e-commerce? C'est ça le sens de ce cours très bas de Jumia?
C'est intéressant comme question. La première chose, je pense, qu'il faut mettre en perspective, c'est que il y a énormément de questions et c'est légitime. Alors, je ne commande pas Jumia, je commande toute entreprise cotée dont le cours fluctue. Il y a souvent des questions sur c'est quoi la trajectoire de croissance, c'est quoi la trajectoire de profitabilité. Et sur ces réponses-là, si vous regardez dans le monde entrepreneurial, on aime bien quand on est entrepreneur regarder les succès précédents. Si vous regardez Amazon a pris 10 ans pour être rentable. Peu de gens s'en souviennent. Donc, dans un contexte où il ne faut pas créer toute l'infrastructure logistique, dans un contexte où les difficultés d'infrastructure sont moindres, dans un contexte où je vous disais tout à l'heure qu'aux États-Unis, 6 à 7% seulement des coûts logistiques composent le coût total de la marchandise. Donc, c'est évident pour moi, alors, en tout cas, lorsque j'investis et lorsque je garde mes actions, je me dis que c'est évident que lorsqu'il y a un pari sur cette action, il faut que ce soit un pari de long terme.
Alors, est-ce que vous regardez tous les jours la valeur de Jumia?
Alors, tous les jours, non, mais je le regarde.
Trois fois par jour.
Vous savez ce que je regarde? Je regarde surtout quelle est la valorisation du portefeuille de Django sur laquelle j'ai une prise directe qui est également extrêmement prometteuse.
Est-ce que vous-même vous investissez en bourse à part Jumia? Est-ce que vous avez des actions Amazon, Alphabet, donc Google?
Au risque de vous décevoir Jean-Pierre et de décevoir aussi d'autres gens qui veulent que je diversifie davantage, tous mes investissements sont dans les startups technologiques africaines. Donc je ne spécule pas, j'investis pas en bourse parce que je pense que l'utilité de mon capital, qu'il soit d'ailleurs personnel ou mon capital en tant qu'investisseur professionnel, est vraiment dans ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. On a des opportunités qui sont fortes. On regarde d'autres zones. J'aime bien comparer l'Afrique à l'Inde, même si je sais que c'est une comparaison approximative. Mais pourquoi j'aime le faire, c'est que si vous regardez les indicateurs macroéconomiques, vous avez 1,2, 1,3 milliard d'habitants. Vous avez 3000 milliards de dollars de PIB un peu dans les deux cas, peu ou prou. Vous avez plus de téléphones mobiles, plus d'internautes, plus d'usage de services financiers mobiles en Afrique qu'en Inde. Et pourtant, ça fait plusieurs années que l'écosystème indien lève 17 fois plus de capital que l'Afrique. Et pour moi, ça vient de ces raisons de déficit entre la perception et la réalité de l'opportunité, d'acteurs qui prennent le risque. Il n'y a pas assez de fonds de capital risque généraliste panafricain. Il commence à y en avoir davantage avec Partech, avec Cathay. En revanche, ils ont tendance à s'intéresser, et c'est normal, c'est leur cœur de métier, à ce qu'on appelle le growth capital, donc le capital de croissance. Or, voilà, pour arriver à la croissance, il faut déjà pouvoir exister, il faut faire de l'amorçage. Et c'est pour ça que je pense que l'usage de mon investissement est plus utile, et surtout ma légitimité, pour être honnête, est plus utile et plus claire sur ce sujet.
On va repartir sur le terrain, Julien, parce qu'il faut avancer dans l'émission. Le Burkina Faso s'est doté d'une usine de fabrication de panneaux solaires, une première en Afrique de l'Ouest, qui confirme la vocation de ce pays soucieux de maîtriser toute sa filière solaire. Soutenue par le gouvernement, l'entreprise Faso Energy vient de lancer sa production. L'État, qui multiplie les créations de centrales solaires, va lui passer des commandes afin de soutenir la filière. C'est un dossier signé Olivier Roger dans Ecodici Eco d'ailleurs.
200 panneaux solaires sortent désormais chaque jour des ateliers de Faso Energy situés en banlieue de Ouagadougou. Une cinquantaine d'employés ont été formés par un groupe européen qui a aussi fourni la ligne de production. Jérémy Zmouda est le directeur général de Faso Energy.
On a un partenaire espagnol qui est venu installer l'ensemble de l'unité de production. Donc actuellement, on a une chaîne de production européenne avec du personnel qui est formé. On a vraiment un produit de qualité sur lequel on peut donner des garanties aux consommateurs locaux.
La qualité des installations solaires, c'est l'un des objectifs recherchés par le ministère de l'Énergie dans un pays submergé de panneaux à bas coût. Bachir Ouedraogo, ministre burkinabé de l'Énergie.
Vous savez, nous sommes inondés par des panneaux de qualité douteuse, avec aussi le mécanisme du dumping. Il y a des panneaux qui sont reconditionnés et envoyés vers l'Afrique, le Burkina, et nous nous sommes dit la meilleure manière donc de pouvoir contrôler la qualité donc de ce que nous produisons, c'est de produire nous-mêmes.
L'Agence pour la promotion des énergies renouvelables et les autorités mettent en place un système de certification des panneaux solaires importés afin notamment de ne pas pénaliser la production locale. L'usine de Faso Énergie, quant à elle, bénéficie d'incitations afin de la rendre compétitive. Jérémy Zmouda.
On a quelques facilités au niveau fiscal, au niveau du code d'investissement et au niveau de l'exonération de la TVA, et ce qui permet de se battre à armes égales.
L'objectif du gouvernement est plus large. Il s'agit de maîtriser l'ensemble de la filière solaire. Ainsi, Faso Énergie va recevoir des commandes publiques. 16 centrales sont actuellement en cours de développement au Burkina Faso. Bachir Ouedraogo.
Nous allons tout faire pour que l'industrie burkinabée puisse vivre, puisse vendre ses panneaux, puisse participer donc à la construction du secteur énergétique au niveau du Burkina Faso, en leur permettant donc de faire donc des centrales et de nous accompagner vraiment dans cette politique énergétique dirigée vers le solaire que nous sommes en train de mettre en place.
D'ici 5 ans, le Burkina aura installé une puissance totale de 500 mégawatts d'énergie solaire. Le pays compte aussi développer une industrie de stockage. Le ministère de l'Énergie est en pourparlers avec un industriel pour une usine de fabrication de batteries à usage domestique.
C'est un dossier signé Olivier Roger du service économique de RFI. Une question de Julien Clémenceau.
Fatou Mataba, les États africains doivent-ils défendre leur souveraineté numérique et protéger certains secteurs technologiques, exiger par exemple que les données numériques africaines soient hébergées sur le continent.
Est-ce que la question est valable pour le solaire comme pour la technologie ?
Écoutez, je pense que le coronavirus a montré d'ailleurs qu'il y a des secteurs qui doivent être essentiels, dans lesquels il doit y avoir une stratégie nationale. Donc, par exemple, ça peut être le stock de médicaments, ça peut être le stock de masques, ça peut être effectivement la donnée de l'utilisateur et ça peut être l'énergie que l'on consomme. Pour autant, ce qui est important pour moi, c'est de le faire de manière raisonnée et en fonction des opportunités qui existent. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a, et il y en a davantage hein, aujourd'hui, par exemple il y a des data centers africains, donc quelqu'un par exemple comme Strive Maziwa a investi et a une offre de data center locale, donc s'il y a une capacité locale, une infrastructure qui existe, qui a un coût intéressant pour les entreprises, alors bien entendu c'est évident, il faut rester dans la mesure du possible en maîtrise des données hein, et c'est un sujet qui n'est pas qu'africain, c'est un sujet qui est mondial. La France se pose les mêmes questions vis-à-vis d'acteurs américains, la Chine se pose la même question vis-à-vis des États-Unis et surtout vice-versa. Donc, pour moi, oui, sur le principe. En revanche, j'ai toujours peur des vieux pieux et des idéaux lorsqu'ils ne sont pas suivis des faits. S'il y a une capacité et des plans pour que le coût d'accès, les coûts de connectivité, la qualité des data centers soient aujourd'hui suffisants pour accompagner l'essor d'un continent qui est l'un des plus technophiles, finalement, la réponse est oui, et c'est une évidence. Et donc, je le vois d'ailleurs comme une opportunité. Un pays comme le Rwanda le voit comme une opportunité. Si vous parlez à la ministre rwandaise des technologies, son excellence Paola Ingabire, elle vous dira que ce sujet de data center, cybersécurité, c'est au cœur de la stratégie numérique de son pays. Et du coup, ils essaient d'attirer des investissements pour pouvoir développer cette expertise. Et je pense que ce sont des réponses de ce type dont nous avons besoin.
Vous avez commencé à en parler un tout petit peu plus tôt. Il y a une plateforme de gestion des commandes qui a été créée durant la crise du coronavirus pour que un certain nombre d'États puissent faire face à la pandémie avec des équipements médicaux. Comment cette initiative a été créée, amenée sur le tapis ? Comment vous y avez participé ?
Écoutez, j'ai été frappée par la genèse, justement, parce que le point de départ, c'est le président de l'Union africaine qui réunit certains de ses homologues régulièrement et qui regarde les sujets sur lesquels il faut avoir une position commune, ou en tout cas qui ont des enjeux communs. Donc le premier, comme je l'indiquais, était celui, et toujours celui des financements, de la dette, etc. Et le second était vraiment lié au fait que lorsqu'on est un pays africain, et c'était encore plus vrai au démarrage de la pandémie, on a encore plus de difficultés à accéder à des masques, à des respirateurs artificiels, parce qu'il y a une tension mondiale. Et vous avez vu que même en France, il a fallu, par exemple, sur les respirateurs artificiels, un consortium d'industriels comme Schneider Electric, Valeo, Air Liquide, pour en produire quelques dizaines de milliers dans l'urgence. Donc vous imaginez ce que ça peut être pour un pays à faible démographie. Et la première difficulté, c'était de ne pas savoir où aller chercher ces produits. La deuxième difficulté, c'est de ne pas avoir une commande qui atteigne les seuils. Donc donc les quantités minimales de commandes pour intéresser un industriel. La troisième difficulté, c'était le prix, et ça l'est toujours. C'est effectivement, pour des raisons bonnes ou mauvaises, les prix ont flambé. Et ensuite, il y a toute la difficulté, on va dire, logistique, et de d'avoir accès, d'être livré en temps et en heure, sachant qu'on a des exemples de pays qui ont commandé les choses en mars et qui n'ont toujours pas été livrés. Donc, devant ce constat, il a nommé un envoyé spécial dans le secteur privé, qui est un entrepreneur et philanthrope zimbabwéen, qui s'appelle Srav Maziyiwa, et qui, effectivement, a lancé un élan et cette idée d'avoir une place de marché en ligne, parce qu'une marketplace, finalement, ça répond à beaucoup de ces enjeux. Ça répond à l'enjeu d'information, du manque d'opacité, la mise en concurrence.
Pas du manque d'opacité, du manque de clarté.
Ça répond à l'enjeu d'opacité sur la circulation d'information. Donc, effectivement, ça apporte une clarté supplémentaire. Ça répond à un enjeu de prix trop élevé. Ça répond à un enjeu d'intégration du paiement et de la logistique. Et à un moment donné, vous savez, quand vous avez une fibre entrepreneuriale d'une part, et lorsque vous aimez le continent comme on l'aime, on s'est dit, on y va. Donc, en quelques, je pense, entre...
C'est qui
fin,
on...
Alors, c'est le secteur privé, donc Monsieur Maziyiwa. C'est une autre partie du secteur privé, la Banque africaine d'import-export, donc qui a tout de suite cru au projet et qui est partenaire stratégique. C'est la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, donc avec Dr Vera Songwe également, qui est partenaire stratégique depuis le début. Et c'est aussi et surtout le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies au sein de l'Union africaine, qui avait le stylo pour indiquer les estimations de quantité, les prix, les spécifications, les degrés, on va dire, de qualité requis. Par exemple, c'est important d'avoir que des acteurs qui sont certifiés par l'OMS, par la FDA, qui est l'autorité de régulation américaine.
Comment vous êtes trouvé embarqué sur ce projet?
Mais écoutez, parce qu'à un moment donné, vous savez, je vous donnais l'exemple du Nigeria plus tôt. Le secteur privé essaie toujours d'aider dans des situations comme celle-ci. Et M. Maziyiwa m'a contacté en me disant il faut que je fasse ça et il faut qu'on fasse ça ensemble. Et évidemment, c'est quelque chose qui a été une évidence pour moi, parce que non seulement les compétences, les réseaux et la capacité à financer étaient là, mais en plus, c'était une fierté de se dire que dans un contexte où il y a un sentiment d'urgence, dans un contexte où il y a un enjeu de vie humaine, dans un contexte où il y a une capacité de réponse complètement africaine intégrée, le défi est toujours très très intéressant. Et moi, je voyais aussi l'opportunité derrière d'illustrer concrètement et peut-être de préparer des exemples qui peuvent donner plus de cœur, de corps à la ZELEC.
La zone de libre-échange continentale.
Intercontinentale. C'est que lorsqu'on regarde une place de marché comme Africa Medical Supplies Platform aujourd'hui, qui finalement agrège des produits, que ce soit alors de fabricants africains comme Aspen Africa, qui est un fabricant de médicaments cotés.
Sud-africains
comme Novartis, comme Philips, comme Alibaba, et qui connecte des acteurs gouvernementaux, qui permet de livrer en quelques jours, qui permet de payer de manière très efficiente. On se dit qu'est-ce que ça donnerait si on l'appliquait à l'opportunité de d'essor du commerce intra-africain. C'est quelque chose qu'on se dit depuis des décennies. C'est quelque chose qui a été effectivement maintenant ratifié par la plupart des pays. Mais je pense que quand on montre qu'il y a une opportunité qui a été concrétisée dans un temps court, ça donne des idées, je l'espère.
Combien de pays ont profité de cette plateforme?
Alors aujourd'hui, vous avez 55 pays qui sont éligibles et qui sont engagés au quotidien. Vous en avez presque 35 qui ont déjà leurs accès et qui commandent sur la plateforme.
Le jour où il y aura un vaccin contre le Covid, on espère que ça arrive très vite, cette plateforme sera... utile.
Alors oui, elle sera utile, elle sera importante, comme sur tous les autres sujets. Donc typiquement au départ, le mandat a été de regarder les kits de test, parce que c'est là où il y avait le plus de difficultés. Donc au départ, il y avait, je pense, 10 millions de kits de test qui avaient été sécurisés par le consortium de l'OMS pour 16 semaines. C'est rien du tout. L'objectif du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, c'est de tester 20 millions de personnes d'ici le mois d'octobre. La deuxième chose, c'était tout ce qui est équipement de gestion clinique, donc les respirateurs artificiels, les concentrateurs d'oxygène. Et la troisième chose, c'était les équipements de protection personnelle, donc les masques. Et très très vite, le mandat s'est étendu d'abord aux médicaments, parce que c'est très important, parce qu'effectivement prévenir c'est une chose, traiter c'est autre chose. Et typiquement, il y a par exemple le dexamétasone qui est arrivé très vite, qui est un des médicaments qui, d'après les études, est le plus efficace en cas de difficultés respiratoires accrues, avec l'usage d'oxygène en parallèle. Et bien entendu, ce mandat maintenant a été étendu au vaccin, mais comme vous le savez, le vaccin c'est une histoire à temps plus long, dans le sens où il faut avoir déjà des essais cliniques qui sont approuvés, qui sont probants, avant de pouvoir passer à la distribution.
Alors, Fatouma Taba, on va sortir du champ purement économique pour la fin de cette émission. Au mois de septembre, le Quai d'Orsay a officialisé le rappel de son ambassadeur en Côte d'Ivoire pour une enquête interne concernant de possibles violences sexuelles. Le mouvement MeToo s'est fait connaître après l'affaire Weinstein en 2017 aux États-Unis et en Europe, mais il n'y a pas eu le même écho en Afrique. Vous qui évoluez en Afrique beaucoup, en Europe, est-ce que ça vous surprend ?
Écoutez, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu le même écho. Vous ne le voyez peut-être pas dans le même type de médias, mais il y a énormément de mouvements en soutien justement à des sujets de cet acabit, et sans commenter l'artiste en question, il y a un artiste en l'occurrence actuel qui en fait les frais ces derniers jours, où il y a effectivement une prise de position de l'opinion publique, et je dis de l'opinion publique au sens large, parce que souvent on circonscrit ce débat aux féministes. Et je pense que ma réponse à ça, c'est que je pense que tous les continents, toutes les régions du monde sont concernées par les questions liées au genre et par les violences et les agressions qui sont liées au genre. Et ma manière d'y répondre, comme souvent, c'est voilà, de partager peut-être l'émotion que tout le monde partage, de dénoncer publiquement ou en privé, mais surtout d'agir. Et je pense que c'est l'occasion pour moi, on n'en a pas beaucoup parlé pendant cet échange, mais en Afrique,
on a beaucoup parlé.
On n'a pas beaucoup parlé de la question du genre, où en Afrique, vous avez quand même le taux d'activité entrepreneuriale le plus élevé du monde. Donc si vous regardez les personnes qui sont les plus entrepreneurs dans l'âme et en réalité de par le monde, ce sont les Africaines au sud du Sahara avec 27%. Ouais. Donc c'est le taux d'activité entrepreneuriale. Et pourtant, la Banque africaine de développement estime à 42 milliards de dollars le déficit de financement de ces mêmes femmes entrepreneurs. Et dans le même temps, Roland Berger nous dit que
donc si on les finançait, qui est
un cabinet de conseil en stratégie, nous dit que si on les finançait, ça générerait entre 150 et 200 milliards de PIB supplémentaires. Et donc à un moment donné, moi j'aime pas beaucoup les si, j'aime bien les traduire en réalité concrète. Et l'une des choses dont je suis fière dans mon pari, c'est d'abord d'être investisseur à la tête d'une société de gestion qui est majoritairement détenue par des femmes et dirigée par des femmes, qui investit dans 50% d'entrepreneurs au féminin, donc dans des startups fondées, cofondées ou bénéficiant directement à des femmes. Et je pense que ce levier économique, c'est le meilleur levier, parce que l'émotion a toujours un temps, mais quand vous arrivez à avoir un poids, à peser dans le PIB, à peser dans les conseils d'administration. Donc là, la parité, elle est beaucoup plus évidente, hein, parce qu'elle est dans les faits.
Est-ce que vous avez, en tant que femme, rencontré beaucoup d'obstacles qu'un homme n'aurait pas rencontré dans votre parcours ?
Alors, je pense que oui, mais je pense que je m'y attache pas. Je pense que si vous avez la combinaison, et c'est la même chose, je pense que c'est encore plus difficile pour une entrepreneur francophone ou pour la version de moi d'il y a peut-être 10 ou 15 ans. Quand on veut cumuler le fait d'être francophone, jeune, africaine, c'est sûr que c'est pas évident de
anglophone, ce serait plus facile ?
Alors, je dis pas que ce serait plus facile, mais les faits nous montrent que 90% de l'argent investi dans la tech africaine l'année dernière est allé dans 4 pays. L'Égypte, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Donc finalement, c'est une chance statistique. Et pour moi, des Fatoumata, des Ramatoulaye, des Bimbola, il y en a plein. Il faut avoir déjà la thèse d'investissement qui va avec. Donc, il faut du capital, il faut du savoir-faire, il faut un petit peu de temps et surtout, il faut démontrer que la thèse de départ qui est d'avoir une performance économique, un impact social est délivrée parce que ça va faire arriver plus d'acteurs. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de fonds d'investissement qui aient une thèse qui allie l'impact économique à l'impact social parce que non seulement c'est une opportunité en Afrique, mais pour moi, c'est une responsabilité.
Une question de Julien Clémenceau qui sera vraisemblablement la dernière question de cette émission.
On voit que une grande partie de l'argent qui va vers la tech africaine vient de l'extérieur du continent. Donc on parlait des bailleurs, mais aussi des investisseurs privés. Pourtant, sur le continent, il y a plein d'entrepreneurs prospères, de grandes familles riches. Est-ce que ces gens-là ont peur d'investir sur le continent dans la tech ?
C'est une excellente question et je pense que c'est
une
question...
Une excellente réponse, c'est une brève,
réponse
brève.
Toutes tes questions, je pense, d'expérience personnelle et de succès. Aux États-Unis, vous avez beaucoup de personnes qui investissent parce qu'elles ont été entrepreneurs à succès elles-mêmes. Déjà, effectivement, il n'y a pas encore assez de places de marché en ligne qui ont des succès qui permettent à des entrepreneurs de se dire, je vais y mettre tout mon capital. Il y en aura de plus en plus avec davantage de capital d'amorçage comme on le fait. Mais ensuite, il y a quelque chose d'aussi de presque culturel. Les IDE en Afrique, c'est 6 à 7% du PIB. Mais vous savez quel est la proportion du PIB que des institutionnels africains, donc des fonds de pension, des assureurs, placent à l'étranger, c'est 26% de PIB. Hein, donc c'est un sujet aussi de culture, de perception, et cette chaîne de valeur locale doit être créée pour renforcer le financement du secteur privé.
Merci Fatouma Taba de nous avoir fait partager votre expérience, votre connaissance encyclopédique de l'Afrique, des échanges commerciaux internationaux. Cette émission est maintenant terminée. Merci à Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Vous pouvez nous réécouter sur les sites internet de nos deux médias, jeuneafrique.com ou rfi.fr, et sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.